Shalom à tous, Boker Tov les Koulam, et on est reparti pour un Yom Revi'i, et Yom Revi'i, eh bien comme tous les mercredis, eh bien nous étudions Baruch HaShem Parashat HaShavua, et donc c'est parti, ça y est, on est rentré de nouveau dans le tout début de la Torah, en Sefer Bereshit, et donc, eh bien, nous pouvons maintenant commencer à étudier Parashat Noach. Parashat Noach, alors là c'est un gros morceau Parashat Noach, ben oui. On est dans les balbutiements de l'humanité et je vais juste pour aller voilà, nous sommes dans les balbutiements donc de l'humanité. Quels sont les enseignements de cette paracha de Noir? Alors, on connaît tous la paracha de Noir. On connaît tous la paracha, le déluge, tout ça, évidemment. Mais on va essayer de comprendre en profondeur parce qu'il y a des secrets dans cette paracha qui sont en vérité marqués noir sur blanc. Mais il faut simplement savoir où regarder. Quand on ouvre la paracha, eh bien, on nous dit quelque chose d'absolument incroyable. On nous dit « Ele toldot noach, noach ish tzadik tamim haya bedorotav et ha-Elohim italech noach. » On nous dit « Voici les engendrements de Noach. Noach était un tzadik entier dans sa génération. » Je ne vais pas rentrer dans le débat « Est-ce qu'il était un tzadik au niveau d'Abraham ? Est-ce que dans la génération d'Abraham, il aurait été encore tzadik ?» Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de comprendre la contradiction qu'il y a entre ce verset-là et le dernier verset de la paracha de Bereshit. Pour comprendre l'ambiance dans laquelle Noach se trouve, eh bien, il va falloir revenir à la fin de Bereshit. Nous dit les deux derniers versets de la paracha. Vayomer Hashem emche et Adam ashabaratim al pene Adama me Adam ad behema ad remez veadof hashamayim ki nichamtim ki asiti. Dieu décide de détruire tout ce qu'il y avait à la surface de la terre. Et là, la Torah nous dit « Venoach matzachen b'enei Hashem » et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noach matzachen b'enei Hashem. Et j'aimerais qu'on s'arrête deux petites secondes sur cette dimension de matzachen. Mais c'est matzachen. Avotai matzachen, il a trouvé grâce. Ça veut dire que Noach ne le mérite pas. C'est-à-dire que Noach ne mérite pas d'être sauvé s'il a trouvé grâce. Grâce vient du mot gratuit. En hébreu également, chen, milashon chinam. Si Noach a trouvé grâce, c'est qu'il ne mérite pas d'être sauvé. S'il avait mérité, on n'aurait pas dit matzachen, on aurait dit magialo. Matzachen. Et pourtant, dans le verset suivant, qui est le début de la paracha de Noach, on nous dit que oui, tzadik, imu tzadik, s'il est tzadik, bah, il mérite. La notion de tzadik montre qu'il mérite. Alors, comment est-ce qu'on comprend cette contradiction? Matzachen ou alors il mérite? Bizarre, cette histoire. Comment comprendre cela? Vous allez me dire, mais attends, s'il a été sauvé, de toute façon, c'est qu'il mérite. Eh bien, la vérité, c'est que non. C'est que pas du tout. Parce que quand on va regarder dans la paracha de Noach, et qu'on va regarder, par exemple, le verset, ici, je vous le prends, attends, où est-ce? Deux petites secondes, Ephata. Voyons, voilà. Non, je ne l'ai pas, je dis n'importe quoi, deux petites secondes, effosé. On parle entre vous deux secondes. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je ne retrouve pas mon verset? Ah voilà, ah, je suis bête. Non, je suis complètement perdu, les amis. Pourquoi je n'arrive pas à retrouver cela? C'est quand même fantastique. C'est dingue. C'est dingue, les amis. Je ne retrouve plus mon verset. C'est fou. Et où es-tu? Attends, c'est quand même... Ah ben, je suis bête. Ah là là. Je suis vraiment bête. C'était le quatrième verset de la paracha. Autant pour moi, hein, je vous ai fait un suspense énorme. Il était devant mes yeux, je ne le voyais pas. Mais Kitsour, donc, dans le chapitre Yud Gimel du verset Vav, eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire à Noah, Vayomer Elohim Noah, Ketz kol basar ba lefanai, kimala haaretz chamas mipeneem veinani mashrita mata haaretz. Nous dit Dieu, Ketz kol basar ba lefanai. C'est la fin de toute viande, de toute chair. Et Rashi nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit Ketz kol basar, qu'est-ce que cela veut dire? Kol makom shata motzez nud vavodat elilim, andra la musia ba la olam veoreget tovim veraim. Nous dit Rashi, à chaque fois qu'il y a de la perversion dans ce monde, alors le malheur s'abat sur le monde et tue les bons comme les mauvais. Ce qui veut dire donc que dans le Maboul, dans le déluge, il y a des bons qui sont morts également. Et donc, ça renforce la question. Comment ça se fait alors que si Noach ne mérite pas, pourquoi Noach a été sauvé? Eh bien, Rabotai, il est temps de comprendre l'histoire. Noach matzachen lifnei Hashem. Alors que Noach est tzadik lifnei Elohim. Et là, j'aimerais que vous compreniez bien la différence. Noach est un tzadik, clairement. Mais selon quels critères c'est un tzadik? C'est un tzadik selon les critères de Elohim. Elohim, c'est la dimension du dévoilement de Dieu dans la nature. En d'autres termes, Noach est un tzadik naturel, est un tzadik dont la morale humaine n'a pas été ébranlée. Zeh Femeod, mais il y en avait très certainement d'autres. Le seul problème, c'est que le Maboul, le déluge, n'est pas du domaine de la nature. Le déluge chamboule les lois de la nature. Le déluge est un miracle. Si tu es un tzaddik uniquement selon les critères naturels, eh bien, tu ne peux pas résister au déluge. C'est impossible. Car c'est trop fort pour toi. Il faut, pour résister au déluge, être quelqu'un qui va au-delà du déluge. C'est-à-dire au-delà de la nature. Et c'est ce que veut nous enseigner le dernier verset de la paracha de Bereshit. Venoach matzachen lifnemi, lifne Hashem. Pas lifne Elohim. Noach a trouvé grâce aux yeux de Yudke Vavke, du tétragramme, de ce qui dépasse le dévoilement de la nature. Ainsi, Dieu a pu le sauver. Car le mérite n'était pas dans la simple condition de Noach, mais dans ce que Yudke Vavke a trouvé chez lui. Parce qu'il a matzachen, il a trouvé grâce. S'il a trouvé grâce, Rabotai, c'est que Dieu a cherché. C'est que Dieu a cherché. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, nous disent nos sages, regardez, donc on peut continuer. Et dans le tout début du chapitre Zayin, verset Aleph, nous dit, Vayomer Hashem, Yudke Vavke, le Noach, Bo ata vechol betra el ateva ki otra raiti tzadik lefanai. Cette fois, c'est Hashem Yudke Vavke qui parle et qui dit rentre dans la teva, dans l'arche, car otra raiti tzadik lefanai. Bien sûr que otra, ça veut dire je t'ai vu comme étant un tzadik devant moi. Mais ça contredit parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il était tzadik devant Elohim. Seulement ici, quand on regarde dans la Torah, le mot otra n'est pas écrit normalement. Normalement, on devrait écrire aleph, vav, tav, raf. Et ici, il n'y a pas de vav. Nos sages vont nous expliquer que cela veut dire que ce n'est pas Otra, mais c'est comme si c'était marqué Itra. Itra, ça veut dire ma, avec toi. Itra raiti tzadik lefanai. Ma zot omeret. Ça veut dire quoi, Itra? Avec toi, j'ai vu quelqu'un. Qui? Nous disent nos sages, j'ai vu celui qui méritait d'être sauvé, celui qui était tzadik lefanai, Abraham. J'ai vu qu'en toi était Ganouze. Était à l'intérieur caché l'identité plus tard d'Abraham, qui elle méritera d'être sauvée, car elle est tzadique devant Hachem, et j'irai même plus loin. J'ai vu qu'en toi était Ganous quelqu'un d'autre. J'ai vu qu'en toi était caché quelqu'un d'autre encore. Et peut-être même de manière encore plus évidente, j'ai vu qu'en toi était caché mon cher Abbène. Et oui, rappelez-vous de la fin de la paracha de Bereshit. Dans la fin de la paracha de Bereshit, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayomer Hashem, lo yadon ruchi ba'adam le'olam b'shagam u'basar ve'yu yamav 120 shana. Dieu dit qu'il ne donnera plus sa force à l'homme autant qu'avant, ils ne vivront plus des centaines d'années. Veyu Yamav, Me'av Esrim Shana. Me'av Esrim Shana, quel est le seul personnage du Tanakh à avoir vécu 120 ans pile poil? C'est mon cher Rabbeinu. D'ailleurs, quand on dit Le Olam Beshagam ou Bassar, Mazé Beshagam, nos sages disent que c'est un mot bizarre, parce que Beshagam, ça veut dire Beshel Gam. Ça veut dire Gam. On aurait pu dire simplement Gam. Ou alors Kshe. Mazé Beshagam, nous disent nos sages Beshagam Gematria Moshe. Et d'ailleurs, on peut voir évidemment les similitudes entre Moshe et Noach. Moshe a été mis aussi dans une teva pour être sauvé des eaux. Comme Noach qui rentre dans une teva pour être sauvé des eaux. Il n'y a pas de problème. Moshe, il a été recevoir 40 jours, 40 nuits la Torah. Ven Maïm et la Torah, et le déluge a été 40 jours, 40 nuits. Donc, les similitudes entre Noach et Moshe sont évidentes. En d'autres termes, dit Dieu à Noach, tu ne mérites pas d'être sauvé du déluge, mais tu mériteras d'être sauvé du déluge. Et c'est à force de cela que je vais te sauver. Vous savez, très souvent, on se pose la question, on voit quelqu'un qui réussit énormément dans quelque chose, on se dit, mais pourquoi il mérite? D'où il mérite? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Alors, des fois, tu trouves, parce que c'est un homme qui a fait des choses extraordinaires. Et des fois, tu ne trouves pas. Tu n'as pas l'impression qu'il a fait quoi que ce soit de foufou. Et n'oublie pas qu'il est possible qu'il ait fait dans un Gilgoul antérieur. C'est possible qu'il va faire dans un Gilgoul prochain. C'est possible qu'il mérite de ce qu'on appelle le Srout Avot, du mérite de ses pères, et ainsi de suite. Ici, Noach mérite d'être sauvé parce qu'il porte en lui Abraham et Moshe. Mais il va quand même falloir, pour qu'il soit sauvé, qu'il participe et qu'il dévoile un petit peu de cette dimension abrahamique et moshique. Comment va-t-il faire? Eh bien, il va faire la Teva. Il va faire l'arche. Ah, il a fait mode. Seulement, cette arche, on la connaît. Mais est-ce qu'on a bien pris conscience de ce qu'il s'agit? Quelles sont les dimensions de la Teva? La Teva, l'arche, mesure 300 mètres, non, c'est-à-dire 300 amot de long, à peu près 150 mètres, 50 amot de large, à peu près 25 mètres, et 30 amot de hauteur, à peu près 15 mètres de haut. C'est déjà du bon gros bateau. C'est déjà du bon gros bateau. Oui, évidemment, tous les ans, à l'approche de la paracha de Noir, il y a des photos qui réapparaissent. Il y a une espèce de grand, énorme vestige de bateau qui aurait été trouvé sur les monts Ararat, en plein dans la neige. Et donc, il y a des gens qui disent que c'est exactement les mêmes dimensions. C'est l'arche de Noé. Tov, non, non, il y a l'Amalo. Au Texas, il y a un évangéliste qui a fait l'arche avec les dimensions de la Torah. Ça se visite. Donc, l'Amalo. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. L'arche fait 300 amot de long, 50 de large, 30 de hauteur. Aval, l'arche n'est pas véritablement seulement une arche, Rabotai. Venez, réfléchissons deux petites secondes. L'arche n'est pas seulement une arche. Comment on a dit qu'on appelait cette arche? On l'appelle une teva. Teva, c'est une arche. Mais teva, c'est quoi également? C'est un mot. En hébreu, on dit les initiales s'appellent des rachets tevot. Teva, c'est un mot. Donc, Dieu demande à Noach, pour être préservé du Maboul, du déluge, de rentrer à l'intérieur d'un mot qui aurait les dimensions de 350 et 30. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Rabotai, il nous dit, Rachma Kabbalah, 300, c'est tout simplement, vous le savez, c'est 10. Ah oui, 10 fois 5 fois 6. 10 fois 5 fois 6, ça fait 300. Alors, c'est quoi 10 fois 5 fois 6? 10 fois 5 fois 6, c'est Yud, Hey et Vav. Les lettres du tétragramme. Mais il y a une autre combinaison pour les lettres du tétragramme. Il y a seulement Yud et Hey. Ça fait 50. Et il y a également une autre combinaison qui est Vav et Hey. Ça fait 30. En d'autres termes, en bataille, la Teva, elle a les dimensions du nom de Dieu, du tétragramme. C'était ce qu'il manquait à Noé pour être sauvé. Lui, il était tzadik selon Elohim, on a dit. Pour qu'il puisse être sauvé du déluge, il faut qu'il rentre à l'intérieur de Yud Kevav Ke. Il faut qu'il rentre dans cette dimension supérieure à la nature qu'est Hachem. Et donc, eh bien, une fois qu'on a dit cela, alors c'est bon, on peut rentrer dans la Teva et c'est parti. C'est parti, le déluge. Le déluge à la Haaretz. Le déluge, c'est-à-dire à Torah, qui aurait dû être donnée à cette génération. Eh bien, comme elle ne le méritait pas, cette génération a reçu la Torah, mais qui est devenue Maïm. Noach survit au déluge. Noach survit au déluge. Seulement, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps dure le déluge à Botaï ? Combien de temps le déluge dure-t-il ? Et là encore, ce n'est pas très clair. Parce que si on demande au commun des mortels, c'est-à-dire tout le monde, tu demandes à tes enfants combien de temps ça a été le déluge, ils vont te dire clairement, 40 jours, 48, tout le monde le sait. Sauf que quand tu regardes un peu dans les versets, ce n'est pas aussi évident. La pluie, elle a été 40 jours, 40 nuits, mais combien de temps il a passé dans l'arche ? Pas clair. Il y a 150 jours, un autre 150 jours. Le déluge a commencé, d'après les dires de la Torah, lorsque Noach a 600 ans. Quand on voit combien de temps il a vécu après le déluge, la Torah nous dit qu'il a vécu encore 350 ans. Cool. Donc, combien de temps a vécu Noach en tout ? Eh bien là, la Torah nous dit qu'il a vécu 951 ans. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais comment c'est possible ? Ça veut dire que le déluge a duré combien de temps ? Un an. Mais je croyais 40 jours, 40 nuits. Puisqu'on nous dit, à la fin des 40 jours, 40 nuits, Noach est sorti de la Teva. En vérité, c'est une espèce de bulle métaphysique qui est à l'intérieur de la Teva. À l'intérieur de l'arche, se sont écoulés 40 jours, 40 nuits. À l'extérieur, un an. Le monde naturel a eu un cycle entier qui s'est écoulé. Alors que Noach, en lui-même, eh bien, il n'a vécu que 40 jours dans cette Teva. C'est pour ça que je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit quelque chose qui est faux. Je me reprends. Excusez-moi, ce matin, on ne sait pas ce qui m'arrive. Je me reprends. Adraba, c'est justement l'inverse que ce que je viens de dire. C'est qu'on se rend compte que donc le déluge a eu lieu un an, mais que lorsque Noach meurt, il a 950 ans. Voilà, il est. Payou kol yemen Noach, c'est moi qui dis n'importe quoi. Techa meot shana vechamishim shana veamot. Alors qu'on nous dit qu'il a vécu 350 ans après le déluge, et donc a priori, il aurait dû mourir à l'âge de 951 ans. C'est ça que je voulais dire. Et on nous dit, bah non, il a vécu 950 ans. Ce qui veut dire que oui, le déluge a duré un an. Mais pour Noach, ça n'a duré que 40 jours, 40 nuits. C'est un autre univers, l'univers de Noach. L'univers dans lequel il est dans la Teva. Mais une chose est sûre. Quelle est l'ambiance de la suite du déluge ? Vous imaginez l'ambiance de l'après-Maboul ? L'ambiance de l'après-Maboul est terrible. D'ailleurs, la première chose que Noach va faire, c'est de boire. Pourquoi il va boire ? Eh bien, comme il est marqué dans Le Petit Prince, pour oublier. Baro, pourquoi le buveur y boit ? Pour oublier. Comment tu veux vivre après ce déluge ? Noach, il se rend bien compte que le monde a été détruit. C'est terrible. C'est un épisode absolument traumatisant. Quelle va donc être la seule véritable préoccupation des générations qui suivent le déluge ? Eh bien, c'est que ça n'arrive plus. Et c'est exactement ce qui nous amène à la deuxième grande histoire de notre paracha. La deuxième grande histoire de notre paracha, c'est les générations qui suivent le déluge doivent faire en sorte que ça n'arrive plus. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 11 du livre de Bereshit, la fameuse histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Rabotaï, de la tour de Babel ? Et j'aimerais tout de suite briser des idées reçues. Quand on l'a étudié au GAN et quand j'ai demandé à mes enfants, les choses sont claires. Il n'y a pas de débat. C'est quoi la tour de Babel ? Ah, c'est pas shoot ! Au début, tout le monde parlait la même langue, ils ont construit une tour et Dieu, finalement, il a mélangé les langues et ils ne pouvaient plus se comprendre. Et l'un, il disait « passe-moi le marteau », mais l'autre, il comprenait « passe-moi le seau ». Et Rabotaï. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'il y a eu la création de la tour de Babel, il y avait déjà les gens qui parlaient des langues différentes. C'est marqué noir sur blanc. que les humains, les groupes humains, avaient des langues différentes avant la tour de Babel. Je prends le verset Lamed Aleph du chapitre Yud, c'est-à-dire avant l'histoire de la tour de Babel. On nous dit Ele Beneshem le Mishpechotam, Lilishonotam, Be'artzotam le Goyehem. Voici les enfants de Shem. Ça, c'est le verset qui vient clore la dynastie de Shem, mais on a le même verset qui vient clore la dynastie de Ham et de Yafet. On nous dit, voici les familles, donc les noms des enfants de Shem, les Mishpechotam selon leur famille, l'Ilshonotam selon leur langue, Be'artzotam selon leur pays, les Goyem selon leur nation. Donc, on voit qu'ils ont déjà des langues différentes. Vous allez me dire, non, mais ça, c'est un passage qui vient de plus tard. Non, parce que le verset suivant, c'est « Elle mishpechot ben noach le toldotam be goyem, ou me elle nifredu a goyim, ba aretz achar amaboul. » Voici les familles duquel se sont éparpillés les gens sur la terre. « Achar amaboul. » « Achar », ça veut dire « juste après ». C'est la différence, nous disent nos sages, entre « achar » et « acharé ».« Achar », c'est juste après. « Acharé », c'est longtemps après. Donc là, c'est « achar amaboul ». Directement, les familles humaines se sont divisées en plusieurs langages. Donc, qu'est-ce que veut dire notre histoire de Tour de Babel? Eh bien, venez, on rentre dans les versets. Vayi kol haaretz safa achat echat sicha udvarim achadim. Toute la terre, nous dit le texte, était be safa echat. Maze safa echat? Puisqu'on a dit que ce n'était pas la même langue. Eh bien, oui, les amis, il est temps de le comprendre comme il faut. La langue, c'est ça. Safa, c'est ça. La lèvre, c'est Safa. La chaune, c'est la langue. Ce n'est pas la même chose. Alors que la langue est pnimite, intérieure, la Safa va vers l'extérieur. La langue, pas seulement l'organe, le langage, c'est propre et intérieur à notre identité. La culture, c'est ce que je vais faire sortir à l'extérieur. Quand on me dit safa echat, il y avait des langues différentes. On parlait en anglais, en allemand, en français, en espagnol, en ce que tu veux, en chinois. Aval, tout le monde, nous dit la Torah, avait safa echat. Il n'y avait qu'une seule culture pour le monde entier. Nous dit Rashi, mazé safa echat, lashon hakodesh. Mazé lashon hakodesh. Halashon shemegalet hakodesh. Lashon hakodesh n'est pas l'hébreu. L'hébreu est la langue qui est la plus facile pour dévoiler le Kodesh, puisque c'est la langue que Dieu a décidé d'utiliser. Mais le français peut devenir la Shona Kodesh, car n'oubliez pas que la Shona Kodesh ne veut pas dire en français la langue sainte. Ça, c'est à la Shona Kadosh. Au Kedosha, il y a un autre. La Shona Kodesh, c'est la langue du saint, la langue qui dévoile la sainteté. Évidemment qu'en hébreu, c'est plus facile. Mais si tu utilises le français pour faire des divrei Torah, eh bien, à ce moment-là, le français devient, pour un temps, la Shona Kodesh. Donc, tout le monde avait des langues différentes, mais tout le monde parlait de la même chose, à savoir comment est-ce qu'on règle le problème du Kodesh. Vous imaginez, on est la génération de l'après-déluge. Comment est-ce qu'on règle le problème pour que ça n'arrive plus? Eh bien, Rabotai, pour que ça n'arrive plus, il y a un homme qui va prendre sur lui de régler le problème. Cet homme, nous dit Srazal, il s'appelle Nimrod. Comment on sait qu'il s'appelle Nimrod? Parce qu'on nous dit que Vayi Reshit Mamlarto Babel, et que donc, puisqu'on nous dit que c'est lui qui a été le premier roi à Babylone, alors la tour de Babel, et Srazal dit, bon, donc c'est lui. Nimrod va trouver une solution. Mais avant de trouver une solution, il doit analyser et comprendre quel est le problème. Dieu a jugé l'humanité durant le déluge, et c'est pour ça que bah, ça nous est arrivé, ce qui nous est arrivé. Nimrod vient et nous dit la chose suivante. Donc, le problème, c'est que Dieu, il juge l'homme. Pour régler le problème, il nous a jugé sur quoi? Sur la violence, le vol, le balagan qu'il y avait entre les hommes. Donc, il y a deux problèmes. Le balagan entre les hommes et le jugement de Dieu. Il faut que je règle les deux problèmes. Comment régler les deux problèmes? Eh bien, réunir l'humanité autour d'un seul projet et deux, détacher l'humanité de Dieu. Comme ça, il ne sera plus jugeable. D'après la halakha, quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, il n'est pas jugeable par la halakha. C'est le concept de Tinok Shenishba Ben Agoyim. Si tu ne connais pas Dieu et tu ne sais pas ce qu'il veut, tu ne peux pas être jugé par lui. Et donc Nimrod va faire la chose suivante. Iné. Vaïkola aret safa achat ou dvarim achadim. Mazé ou dvarim achadim. Vous dites Chazal, Rashi la minsa. Mazé ou dvarim achadim. Idin. Bau beitza achat veamrou. Lo kol immanu sheivor lo haelyonit haelyonim. נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. דבר אחר על ייחודו של עולם, דבר אחר דברים אחדים, אמרו אחת לאלף וחמש מאות וחמישים ושמונה שנים, שש מאות, סליחה, אחד לאלף, שש מאות חמישים ושמונה שנים, הרקיע מתמוטטת, כשם שעשה בימי המבול, בוא נעשה לו סמוכות. דירה שיק, en fait, ils avaient donc trois objectifs. Un, se faire un nom. Deux, faire la guerre à Dieu. Et trois, soutenir le ciel. Ils ont dit, la voûte céleste s'effondre une fois tous les 1656 ans, la date du déluge. Donc faisons-lui des piliers. Il a fait mode, faisons-lui des piliers, pourquoi pas? Mais quoi, ils sont bêtes, ils pensent que le bleu du ciel va tomber. Vous savez, les Gaulois n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel ne leur tombait sur la tête. Est-ce qu'ils étaient simplement débiles? Pas du tout. Ça veut dire quoi, Shamaim Noflim? Shamaim, c'est l'unité des valeurs. Shamaim, c'est Esh Vemaim. Shamaim Noflim, c'est lorsque l'unité des valeurs vient voir si ici, on est capable de résister à cette unité. Chesed, Vedin, Verachamim, Kashemeon. Et donc, ils se disent, venez, on va faire des piliers. Mais ce n'est pas le pilier, ce n'est pas la tour en soi. Ce n'est pas les briques qui vont réussir à soutenir la voûte céleste. Mais c'est le fait qu'on soit occupé à faire la tour. Parce que regardez ce qu'ils nous disent. On nous dit ici, venez, on va faire une tour qui va jusqu'au ciel. Combien de temps ça prend de faire une tour qui va jusqu'au ciel? Ça prend Ends of Zman. Ce qui veut dire que c'est un chantier qui va réunir le monde entier. Agave nous dit, nos sages dans le Midrash, que le projet, c'était de faire quatre tours comme ça. Une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest. C'est pour réunir le monde entier sur ce projet de la tour. Ainsi, les gens naîtront, la tour sera toujours en chantier. Ils vivront toute leur vie et ils mourront, la tour ne sera toujours pas finie. Tout est tourné autour de la tour. C'est le projet qui réunit l'humanité. Il n'y a donc plus de compétition. Pourquoi il n'y a plus de compétition? Parce que tout le monde est tourné vers le même objectif. En cela, Nimrod règle le problème de la violence entre les hommes. Le problème, c'est que dans cet idéal-là, on est tous pareils. Ce n'est pas du tout l'idéal. Car être tous pareils, c'est faire preuve d'unicité. C'est être tous les mêmes. Mais les hommes ne sont pas tous les mêmes. C'est de la dictature communiste d'obliger tout le monde à être pareil. Nimrod, Staline avant l'heure. À tel point d'ailleurs que le Midrash nous dit qu'il y a un homme qui est sorti de l'objectif de construire la tour. C'était qui? C'était Ashur. « Umina aretzai yatsa Ashur ». Vous dites, Chazal, pourquoi? Pourquoi Ashur il est sorti de l'idée de faire la tour de Babel? Quand il a vu que lorsqu'une pierre tombait, on faisait Kaddish, mais que lorsqu'un homme tombait, personne ne portait attention. Lorsqu'une pierre tombait, on disait « qui pourra la remplacer ?» Alors que quand une brique, alors que lorsqu'un homme tombait, personne ne s'est intéressé, puisque l'homme n'est qu'un mispar, n'est qu'un numéro parmi tous ces autres qui sont là. Stromae n'est pas d'accord sur le fait que nous ne sommes pas tous les mêmes. C'est-à-dire, il pense qu'on est tous les mêmes. C'est ça que vous dites? Il pense qu'on est tous les mêmes. Eh bien, je ne suis pas d'accord. On n'est pas tous les mêmes. Master Riot, t'as qu'à regarder n'importe quelle famille qui a plusieurs enfants. Tu verras bien que les enfants, ce n'est pas tous les mêmes, qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, qu'ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Évidemment qu'on n'est pas tous les mêmes. Nous avons tous une spécificité. La tour de Babel voulait annuler toutes ces spécificités, qu'on devienne tous les mêmes. Min haaretz yatsa Ashur. Ashur est sorti de là. Alors on pourrait dire c'est un tzadik Ashur. Ouais, sauf que la Torah nous dit après qu'il est parti, il a construit Nineveh, Haïra Gedola. En fait, il a construit une deuxième Babylone. En fait, ton problème, c'était pas tellement le fait que là-bas, c'était une dictature communiste. Son problème, c'était que c'était pas lui le chef. En fait, il voulait être tout simplement calife à la place du calife. Ah, on a connu ça tellement dans l'histoire. On n'aime pas la monarchie. On n'aime pas les privilèges. On n'aime pas la dictature. Donc, on fait la Révolution française. Et voilà. Et donc, eh ben, finalement, quelques années plus tard, tu as l'Empire napoléonien. Bon, c'est pareil. Napoléon, c'était un fervent révolutionnaire. Mais tu t'es rendu compte plus tard qu'en fait, il voulait simplement être le chef. Il n'était pas content que ce soit pas lui le chef. Nounou. Bekitsour. Le premier problème est résolu. L'humanité est unie autour d'un projet. Alors, comment est-ce qu'on règle le projet que Dieu ne peut pas nous juger? Eh bien, c'est très simple. Ils ont décidé que pour construire la tour, ils allaient prendre des briques et commencer à construire dans une plaine. Bizarre. Si tu veux construire une tour qui va le plus haut possible, bah va sur une montagne. Commence déjà le plus haut possible. Et puis utilise des pierres, c'est déjà sur place. Non. Moi, je vais aller... Ah ! Alors, la vérité, c'est que je savais que c'était un chanteur, mais je ne connaissais pas la chanson « Tous les mêmes ». Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Stromae. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Voilà. Elle est bien au moins, la chanson, ou elle n'est pas bien? Bon, tu me diras. Quoi qu'il en soit, on veut utiliser une plaine et des briques. C'est-à-dire, on veut construire notre montagne à nous. Les briques, ce sont des pierres faites par l'homme. La tour, c'est une montagne faite par l'homme. En d'autres termes, je m'éloigne de ce que Dieu m'a donné pour dire « je suis moi-même le créateur ». Cet éloignement va faire que, évidemment, dans la première génération, on va se rappeler, mais petit à petit, on va complètement oublier que les origines, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça vient de Dieu. Ainsi, Nimrod s'appelle Nimrod. Nous disons ça, pourquoi ? Parce que « makir et ribono femit kaven Nimrod bo ». Il connaît son créateur, mais il a l'intention volontaire de se révolter contre lui. Nimrod sait ce qu'il fait, et lui va certainement payer un prix très lourd. Mais il veut préserver sa génération. Agav, il a raison, et enfin, il a réussi. Nos sages nous disent dans le Talmud que la génération de la tour de Babel était tout aussi dépravée que celle de la génération du déluge. Pourquoi elle n'a pas été détruite ? Parce qu'ils ont fait preuve d'unité ensemble, il n'y avait pas cette perversion interne. Donc ça a marché. Voilà, Botaï. Si ça a marché, peut-être que c'est l'idéal. La tchouva est que non. Parce que Nimrod a préconisé l'unicité, alors que la Torah préconise l'unité. Shema Israël, qu'est-ce qui est contradictoire? Dis-moi, Laurence, qu'est-ce qui est contradictoire? Bon, tu vas me dire dans deux secondes. Bekitsour, l'unité est préconisée par la Torah. C'est-à-dire, Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad, et non pas Hashem Yachid. Mazé Hashem Echad, c'est-à-dire que Dieu est un. C'est-à-dire que tout est uni, mais tout a sa place. L'unité veut dire que, certes, on est ensemble, mais on n'annule pas nos différences. Certes, on est tous tournés vers le même objectif, mais on comprend que lui remplit un rôle dans cet objectif que moi, je ne remplis pas, et lui remplit un rôle que moi, je ne remplis pas, et moi, je remplis un rôle que eux ne remplissent pas. Nahon, c'est des contradictoires, c'est pour ça que lui, il va devoir rendre des comptes. Mais il protège les siens. Très souvent, on a vu ça. Des gens qui veulent, pour protéger ceux qui leur sont chers, font quelque chose qui semble contradictoire. Je te donne un autre exemple, les Havdil. On n'a pas le droit de mettre par écrit la Torah orale. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, voulant préserver la Torah, et voyant que le peuple juif allait être dispersé, écrit la Mishnah. C'est interdit, mais il faut faire ça pour arriver à une bonne, finalement, une bonne conséquence. Donc, l'Avdil, évidemment, parce que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est dans le bien. Mais très souvent, on voit que, des fois, il faut faire des choix contradictoires pour préserver ceux qui nous sont chers. Et donc, finalement, on a dit le problème, c'était que l'idéal de la Torah n'est pas l'unicité, mais bel et bien l'unité. Ça, c'est pour régler le premier problème. Le deuxième problème, du rapport à Dieu. En fait, c'est pareil. Parce que si tu comprends que c'est Dieu qui a créé chacun d'entre nous avec nos différences, eh bien, tu comprends qu'on a besoin de garder ces différences pour les réunir, mais pas pour les annuler. La vie de Nimrod de faire effacer le nom de Dieu n'est pas la solution. Les sages nous disent que parmi les constructeurs de la tour, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui a été enthousiasmé par l'unité prônée par Nimrod. Mais lorsqu'il a compris lui aussi que l'unicité avait pris le pas, alors il va prendre un autre chemin. Et le chemin d'Abraham va être complètement différent de celui de Nimrod, puisque si Nimrod voulait effacer le nom de Dieu, Abraham, quant à lui, va yikra b'shem Hashem. Il passera d'endroit en endroit pour invoquer le nom de Dieu, pour expliquer aux hommes que ce n'est pas parce qu'on arrête de connaître Dieu qu'on ne sera pas jugé par lui, mais c'est justement en le connaissant de plus en plus qu'on sera jugé bien parce qu'on fera sa volonté. Le nouvel ordre mondial ressemble à l'énergie générale ? Bien sûr, mais bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est le nouvel ordre mondial, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça c'est un peu complotiste, mais pas besoin de parler de nouvel ordre mondial. La société mondialisée actuelle, appelle-la comme tu veux, le mondialisme actuel, veut totalement retrouver cet idéal nimrodien, à savoir unicité et totalitarisme, bien sûr. Mais bien sûr, on doit tous boire la même chose, on doit tous manger la même chose, c'est barreau. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Non, mais maître, il faut bien comprendre. Il y a deux options. Il y a soit tu dis, quels que soient les endroits du monde, tu mets un McDo, parce que tout le monde doit manger McDo. Ou alors, tu fais l'inverse. Tu fais que dans ton canyon, tu veux montrer les différences des cultures, eh ben, tu mets un McDo pour montrer l'Amérique, et tu mets un restaurant chinois, et un restaurant italien, et un truc. C'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir est-ce que tout le monde doit être pareil. Évidemment qu'aujourd'hui, on est là-dedans. J'ai une question. Est-ce que si un homme devient Navi, il va devoir connaître parfaitement l'hébreu biblique ou il l'entendra dans sa langue suite à l'explication de ce que c'est la Shana Kodesh? Ah, très bonne question. Je vais te répondre très simplement. Le Navi, pour une des conditions pour être Navi, c'est Chacham, Gibor et Ashir. Mais le premier, c'est Chacham. Et parmi les dimensions de Chochma, il doit connaître évidemment les langues. Les langues et particulièrement l'hébreu. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la langue dans laquelle Dieu a choisi de s'adresser au monde. C'est-à-dire que la langue par laquelle Dieu a créé, c'est l'hébreu. Donc il est évident que la langue par laquelle il veut se dévoiler, c'est l'hébreu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dévoilement dans d'autres, une possibilité de dévoilement dans d'autres langages. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs dans le Sifri, à propos du verset dans Vezot HaBeracha, qui nous dit que Dieu a donné la Torah en quatre langues. Quand on nous dit « Hashem misina eba, vezarach miseir lamo, fia mehar paran, veata mirevevot kodesh » nous dit Rashi, Rashi il amène le Sifri, qui nous dit « Hashem misina eba », c'est que Dieu a parlé en araméen. Ensuite, lorsque il a parlé ve zarach miseir lamo, il a parlé en latin. Ofia mehar paran, il a parlé en arabe. Et ata mirevot kodesh. Et non, celui-là c'est en araméen et le Sinaï c'était en hébreu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un dévoilement de Dieu qui passe par l'hébreu, évidemment. Un autre par le latin, ça va devenir le christianisme. Un autre par l'arabe, ça va devenir l'islam. Un autre par l'araméen, qui va devenir la religion cosmopolite. Mais ça, on verra un petit peu plus tard quand on parlera de Nahor. Donc, oui, il y a un dévoilement par d'autres langages, mais la névoie, c'est par l'hébreu. Non, pas du tout. L'hébreu moderne n'est absolument pas un espèce d'araméen bis. L'hébreu moderne, c'est de l'hébreu. Toute langue évolue avec le temps, mais ça ne fait pas d'elle un nouvel hébreu. C'est-à-dire que tu prends un Israélien qui parle hébreu et qui n'a jamais étudié la Torah et tu le mets devant un Chumash, il comprend. Il comprend ce que ça veut dire. Tu mets un juif tanachique, biblique, dans les rues de Tel Aviv, qui commence à parler, les gens vont trouver qu'il parle bizarre, mais il comprend. Il comprend. Donc l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu. De la même façon que l'hébreu de la Mishnah, c'était déjà très moderne par rapport à l'hébreu du Tanakh, l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu. C'est normal qu'une langue vivante, eh bien, elle évolue. Mais ce n'est pas du tout de l'araméen. Ok ? Donc tout ça pour dire à Botaï que la tshuva, la réponse d'Abraham, c'est qu'il ne faut pas s'éloigner de la connaissance du Créateur pour ne pas en être jugé, mais c'est au contraire retrouver le contact avec Dieu qui nous permet d'être jugé et d'être tzadikim badin. C'est la différence entre Noach et Abraham. La paracha de Noach s'ouvre avec Noach pour nous faire arriver à Abraham. Mais l'histoire d'Abraham, eh bien on en parlera la semaine prochaine. Shabbat shalom, mon brach.